Bienvenue au Voyeur de vue, le meilleur podcast de cinéma de la province de Québec. Pour parler de vue devant l'Internet cette semaine, il y a moi-même, Yannick Belzile, et mon collègue, mon ami de Trois-Bières, Pierre-Luc Racine.
C'est moi, très heureux d'être là aujourd'hui. Il est quoi? Il est 11h du matin? En ce moment, midi.
Midi, oui.
On est allé voir un film à 9h du matin. Ouais. J'ai encore mis mon alarme pour voir un film et c'est vraiment bizarre à chaque fois.
Écoute, moi, j'ai pas besoin parce que mon horloge biologique est réglée. Puis quand c'est movie time, m'a dit que j'ai pas besoin d'être réveillé. C'est ça, cette semaine, on a vu toutes les deux films récemment dont on va parler.
Oui.
On a vu Thor, Love and Thunder, le nouveau film de Marvel de Taika Waititi.
Oui.
Mais on a aussi vu...
On va pas se vanter, mais en ce moment, on est encore le 29 juin.
On
a vu une semaine avant tout le monde.
Ouais.
On peut pas en parler, on peut même pas faire de mention. Sur les réseaux sociaux.
Sinon, les gens de Disney et de Marvel vont venir, nous tuer.
Ben, je pense que Steve Murphy, au documentaire Fantasia, il perd le contrôle sur des balais puis il lance des sauts d'eau en face.
Ouais, puis ça, moi, je veux pas ça.
Non, absolument pas.
T'as dit que j'évite déjà assez de toucher un balai à la maison. Va pas faire ça. Va pas me faire attaquer par un balai au cinéma non plus. Mais toi et moi, on a aussi vu le nouveau film de Baz Luhrmann. On a vu Elvis. Ça faisait comme depuis Great Gatsby qu'il n'y avait pas eu de film de Baz Luhrmann. Puis ça fait tout de même 6-7 ans. Je vais juste vérifier.
Le Great Gatsby, moi, il m'avait déçu beaucoup parce que c'est un film...
2013. Fait que ça fait tout de même un bon bout.
Oui, ça fait un bon bout, Christy.
Ça fait 9 ans.
Hey, j'ai eu le temps de me marier puis me divorcer. Genre, en ces films.
Depuis le dernier Baz.
Ouais. Puis, moi, The Great Gatsby, je sais pas pour toi, mais quand...
Mais juste pour commencer, je pense que toi, jadis, je me rappelle, tu m'avais prêté le DVD de Moulin Rouge dans le temps. T'étais un fan de Baz Luhrmann.
Absolument.
T'es Baz to the future.
Oui, je suis DTB, down to Baz, à tout moment. Au point où, est-ce que, mettons, à Vegas, il y avait à un moment donné une comédie musicale qui s'appelait Baz, que c'était les trois histoires mélangées de Roméo et Juliette, Moulin Rouge et The Great Gatsby. Puis, ils changeaient de chansons en fonction de qui était sur la scène. Puis que c'est vraiment, vraiment cool. J'ai adoré ça. Mais The Great Gatsby, le film, je me souviens être comme vraiment déçu. Parce que quand tu sors d'un film tiré d'un livre, puis ta première pensée, c'est comme « Ah ouais, le livre doit être bon. » Parce que c'est pas un bon film. C'est pas une histoire intéressante pour le cinéma, je trouve.
Ouais, c'est moi, mon souvenir, c'était que malgré tout l'artifice que Baz Luhrmann met dedans, c'était juste correct.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, The Great Gatsby, c'est une des grandes œuvres de la littérature américaine.
Oui.
C'est vraiment comme un grand, grand film. Et le résultat de ça...
Non, puis il n'a pas réussi vraiment à transmettre sa romance dans laquelle il aime tellement parler d'eux. Puis, mettons, Moulin Rouge, de nos jours, il est insupportable. Ce film-là est insupportable. C'est vraiment intéressant de voir ce film-là parce que il est wacky-wacky, wacko-wacko pendant comme 40 minutes. Tout va trop vite parce que c'est basse, parce que c'est le fun, mais ça n'a aucun crise de rapport. Puis c'est comme vraiment... quand je l'ai vu en 2020, j'ai voulu le montrer à mon ex, puis en fait, on regardait d'autres choses. Puis on a regardé The Greatest Showman à la place, puis a bien aimé ça. Tu comprends, genre, comme...
Ouais, je comprends comment tu... Justement, The Greatest Showman, d'ailleurs, je crois que dans Elvis, il se fait appeler The Greatest Showman une couple de fois.
Absolument.
Ouais, je sais pas, si Baz, il regarde The Greatest Showman, puis il est comme « Ah ouais, vous pensez que vous faisiez des shit. »
C'est ça.
M'a vous montré, que je fais des shit encore.
Pour de vrai,
mais
là.
En effet, The Greatest Showman, c'est comme la version « On se calme ».
Ouais.
Le monde avec les cheveux gris vont venir le voir au cinéma. Celui-là, c'est pas autant énervé.
Non, mais c'est pas énervé.
Ça va aussi des chansons originales, plus, me semble.
Oui, ça aussi, oui. Puis aussi, des chansons qui ont été écrites pour jouer à radio, là.
Ouais.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans, mettons, Moulin Rouge, c'est comme... Quand le monde saute, il y a des boing, 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 boing. Tu sais, comme la manière dont toute la série documentaire sur Netflix, Movies That Made Us ou Figurines, Toys That Made Us, ces affaires-là sont insupportables au niveau de la réalisation. À chaque fois que j'en ai regardé, je passe à travers ces filtres-là.
Toys That Made Us, là, tu marches vraiment comme à contre-vent d'une tempête parce que tu vas découvrir une affaire vraiment intéressante sur le gars qui a sculpté les figurines de He-Man.
Oui.
Mais là, à chaque fois que ça tourne dans ta tête, t'as whoop.
Puis c'est comme genre, tu sais, dans un groupe d'amis, t'as un acide wacko qui arrive, qui est un ami d'un ami, puis là, il est comme juste fucking fatigant. mais de temps en temps, il dit une affaire qui est comme « Oh, tabarnan! » Fait que, il y a, pour moi, Moulin Rouge, c'est devenu ça avec le temps. Il y a une époque que je suis comme « Ah oui, c'est vraiment le fun, ça fait le changement. » Puis là, c'est juste comme un petit peu trop wacky. Là. Puis genre, j'adore le wackiness. Là. Mm-hmm. Puis je pense que je serais dedans de regarder Roméo et Juliette pour voir si... Ça, c'est dedans, il me semble qu'il n'y a pas cette affaire-là. Il y a juste comme vraiment rapidement, puis c'est le fun, puis... Je serais dedans de le
ouais,
revisionner.
Je pense que Roméo et Juliette et Great Gatsby, ça ressemble plus les ouais. deux. Mais Roméo et Juliette est vraiment la version mieux exécutée de
absolument.
Tout ça. Là.
Puis ouais. aussi, je suis un fan d'Elvis. Mm-hmm. Pas die-hard fan, mais depuis que je suis jeune, j'en écoute. Mm-hmm. Je google sa vie de temps en temps. Tu sais.
Fait que, pour en venir à Elvis, qui est sorti il y a quelques oui. semaines.
Toi, ta relation avec le King, c'est quoi?
Avec le King, j'aime Elvis, tu sais, comme je connais une couple de ses hits, j'aime sa musique.
Parce que de ce que je connais de toi, t'es comme un peu une couple d'années après le Johnny Cash, tout ça, mais pas les années d'Elvis vraiment, là.
Non, c'est pas ce bout-là de Sun Records qui me passionne.
C'est ça, absolument.
Non, moi, c'est ça, j'ai plus aimé Johnny Cash, mais je te dirais que. Ayant grandi en Abitibi dans les années 80, puis dans le milieu où j'ai grandi, qui a une grosse affinité pour tout le country, puis le western, puis le honky-tonk, puis des affaires comme ça. T'sais, c'était une affaire qui était vraiment écoutée dans les campings où j'allais visiter ma grand-mère et oui. où j'allais là. Puis Laurent Sirard, qui était à Radio AM avec son country, fait que... Fait que c'est pour ça que j'aime Johnny Cash, puis aussi c'est pourquoi j'ai eu comme une connaissance de Elvis, ou une conscience plutôt d'Elvis jeune. Mais tu sais, il y a une couple de ses tunes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Suspicious Minds, In the Ghetto. Ça, c'est comme mes deux préférés d'Elvis. Puis Can't Help Falling in Love aussi, c'est vraiment écœurant. Fait que. Mais je suis fan de l'iconographie puis qu'est-ce qu'il représente dans l'imaginaire comme pop culturel américain. Mm-hmm. Ça, je trouve vraiment fascinant. T'sais, l'idée du Memphis Mafia, sa montée météorique. T'sais, fait que j'aime beaucoup Elvis, le mythe, et j'aime beaucoup quelque chose qui est raconté dans Elvis. Le fait qu'il a basé une partie de son look sur Captain Marvel Jr.
Oui, puis on n'en parle pas souvent, cette histoire-là.
Quelque chose qui est moins connu. Fait que je l'aime comme mythe, puis je crois que ça me prédisposait vraiment à bien apprécier le film de Baz Luhrmann, qui est un réalisateur au style comme super énervé, symbolique.
Carnavalesque. Puis...
Ce que les gens qui connaissent vraiment le cinéma diraient, c'est que Baz Luhrmann est un maximaliste.
C'est que... Oui, c'est pas un film en noir et blanc hongrois où est-ce que les gens... disent un mot puis après ils se tirent pendant 20 minutes là.
C'est pas ça. Baz Luhrmann est un maximaliste, puis moi j'aime bien un maximaliste. Fait que je suis vraiment intéressé de voir ça. Puis là, le film qu'on a vu qui a une twist vraiment particulière, c'est qu'on nous raconte la vie d'Elvis à travers les yeux de son gérant, le colonel Tom Parker, qui est joué par Tom Hanks.
Avec des prosthétiques d'en face. Est ridicule.
Il est absolument ridicule.
Il est absolument ridicule. Pendant, comme, genre, les premières fois que je voyais, j'ai riais dans ma tête. Là. Genre, j'arrivais pas émotionnellement à embarquer dans le film parce que c'est tellement tâtant. On reconnaît Tom Hanks, mais en face suit un peu. Puis après, à un moment donné, il a juste l'air du pingouin, puis il agit comme le pingouin. Fait que c'est juste. Le manager, c'est un cobblepot, puis. Ça m'a vraiment rendu heureux.
Ouais, ouais. Il est sur le bord de voler les orphelins de Gotham City.
Oui.
Et c'est tout à fait merveilleux. Moi, j'ai l'impression que, tu sais, le timeline marche pas, mais que Tom Hanks, il a vu de Batman, il a fait « T'appelles ça le pingouin? Moi, il va te montrer c'est quoi le pingouin, tabarnak. » Oui. Puis, fait que bref, à travers l'imagination débridée, de Colonel Tom Parker, qu'on apprend son background, qui est un forain, et que les forains puis les freak shows, que essentiellement la notion de ça, c'est faire sourire des gens avec quelque chose qu'ils sont pas supposés aimer, qui est un peu interdit, et faire de l'argent dessus.
Et qui repartent avec le sourire.
Ils repartent avec le sourire. Ils voient la chance de faire ça avec Elvis Presley lorsqu'il le voit jouer pour la première fois parce qu'il excite trop les jeunes dames.
Oui.
Et à travers ça, son imaginaire, on découvre la vie de Elvis.
Puis non seulement ça, c'est aussi le colonel Parker, il arrive avec un propos. son propos, c'est « Le monde dit que j'ai tué Elvis, j'ai pas tué Elvis ». Ça, c'est intéressant parce que on a un narrateur pas fiable. C'est
quoi ouais,
ça?
Ouais.
Donc, un terme plus clair que narrateur pas fiable. En anglais, c'est unreliable narrator.
Ouais, ouais.
Avec un narrateur pas fiable, ça veut dire qu'il y a plein d'affaires que c'est son point de vue à lui, qu'on peut douter. Fait que ça fait que c'est pas un film qui est basé sur, sur le factuel parce que c'est comme vraiment, c'est juste un monsieur de foire qui te fait juste te dire que, hey, moi, là, pas si pire qu'à ça, moi.
Non, non, regarde.
Non, mais non, regarde, regarde.
On a fait de l'argent.
Fait de l'argent, il était heureux, là. Il prenait trop de drogue, mais c'est son problème à lui, là. Moi, j'en ai jamais donné, là.
Ouais, exactement.
Moi, je voulais juste qu'il aille faire ses shows, puis j'ai demandé à son père. Son père était là. Tu veux-tu faire un show ou pas, là, tu sais?
Puis, tu sais, fait qu'on a le droit à un biopic vraiment déjanté, un biopic musical déjanté. Oui. Puis là, tu sais, ça, on en a eu beaucoup dans les dernières années. Le seul qui est apparemment vraiment bien, mais que j'ai pas encore vu, c'est Rocketman, qui apparemment qui est vraiment bien et qui a une bonne twist sur cette affaire-là. Mais il y a eu le navrant Bohemian Rhapsody qui a gagné bien des affaires aux Oscars une couple d'années. Ma question, premièrement, c'est as-tu déjà vu Walk Hard?
Non!
Walk Hard, le film de Lawrence Kasdan, qui est la vie de Dewey Cox,
oui.
Qui est avec John C. Reilly, qui est une parodie, justement, de tous ces genres de films-là, qui est vraiment efficace, puis qu'à mon avis, a comme quasiment tué cinématiquement ce genre-là, parce que ça l'a tellement comme amené à l'étable pour le fouetter, fait comme ça. C'est niaiseux, là. C'est niaiseux, ces affaires-là. Mais Baz Luhrmann, il est comme, ah ouais? Il prend toutes ces affaires-là, puis il met dans son blender maximaliste. Puis, du point de vue du colonel Tom Parker, ça fait que ça marche, ça fait que tu l'acceptes. Fait que finalement, moi, j'ai vraiment, vraiment aimé ça.
Ouais, moi aussi, j'ai adoré ça. Sauf, mettons, vu que c'est tellement fast-paced, puis ça change de lieu sans arrêt, puis tout va vraiment vite, vers la fin, il prend plus son temps pour rester à Vegas, tout ça. Puis là, j'ai trouvé que ça était un petit peu trop long parce que on était tellement habitué à que ça allait vite, que ça allait lentement. C'est comme rouler sur l'autoroute puis tomber dans une zone scolaire, là, comme d'une shot. Fait que ça devient comme. Moi, ça m'a comme un peu ralenti. Mais sinon, j'ai vraiment aimé le film.
Ouais, ben, il y a ça aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, je pense que. Tu sais, t'as besoin de ça pour aller dans la tristesse que Elvis. Parce que, tu sais, on voit à quel point que le colonel Tom Parker a pressé Elvis comme un citron jusqu'à la fin de sa vie. Il l'a traité comme Willem Dafoe traite les geeks dans Nightmare Alley. Et puis, j'ai quand même trouvé ça vraiment fascinant, comme même à la fin. Parce que, tu sais, ça me parle à quel point que Austin Butler et Tom Hanks sont vraiment bons. Tu sais, même si Tom Hanks joue une caricature qui se peut pas.
Mais à ce point, c'est bizarre. À cette époque-là, c'est possible.
Ouais. Puis Austin Butler joue aussi une caricature qui se peut pas, mais c'est la caricature de l'homme le plus cool puis le plus sexy qui a jamais existé.
Puis aussi avec le Carbon Place, il joue un genre de Joey Sasso de Circle, mais en 1950.
Puis il y a une scène où Elvis s'est quasiment sorti des griffes du colonel et le colonel parvient à le ramener dans ses griffes. Et même s'il joue un hostie de personnage clownesque, à travers le clownesque, Tom Hanks est capable d'être comme paternel et tortionnaire en même temps. Puis ça, c'est comme pas n'importe qui est capable de pull off ça à travers les hosties de prothèses qu'il porte sur sa face.
Non, c'est ça.
Il est vraiment incroyable.
Absolument, parce que, tu sais, essentiellement, cet homme-là, dans ce film-là, c'est un manipulateur. Puis jouer un manipulateur, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de niveaux à un manipulateur. C'est quelqu'un qui va dire les bonnes choses au bon moment, qui va être méchant au mauvais moment. Puis des fois, il peut voir qu'il abuse de toi quand ça marche. C'est quelqu'un qui va s'expliquer. Tu sais, c'est très difficile de jouer, je pense, un manipulateur, même dans l'écrire comme il faut. Puis s'il réussit à faire ça, puis même nous, on est comme assis, on est assis là, puis je comprends Elvis de lui dire bonne idée. On est assis, puis il réussit même à nous convaincre. Il ne nous convainc pas, mais à faire « Ah ouais, genre, je suis Elvis à ce moment-là, dans ces moments-là. » Je dis oui parce qu'il pèse mon piton.
C'est ça, tu comprends pourquoi Elvis tombe, puis en même temps, t'es comme « Oh, con, je veux l'haïr ». Tu sais, c'est vraiment comme quelque chose réalisé de main de maître. Puis tu sais, pour toutes les affaires, on peut dire comme « Est-ce que c'est Coco Banane, les affaires de Baz Luhrmann ». Il crée tout de même ces scènes-là, puis justement, tu sais, c'est pas n'importe qui est capable de faire ça.
Si on dit Tom Hanks a des prothèses ridicules, puis on y croit par moment, c'est un assez de miracle.
Tu sais, au début, là, j'étais comme, hey, là, il arrête de faire du Cloud Atlas shit, là, parce que dans Cloud Atlas aussi, là, il se met des prothèses, puis des fois, il y a du brown face un peu triste. Mais tu sais, il y a plein d'affaires qui sont très Cloud Atlas. En fait, c'est un film très Wachowski parce que le editing par bout de Elvis est très Speed Racer-esque, ce qui, moi, me plaît beaucoup.
Puis d'ailleurs aussi, si tu crois que les casinos internationales, le cabaret de ça, c'est l'Iceberg Lounge, c'est vraiment meilleur. Ça devient immédiatement meilleur.
C'est une affaire intéressante parce que tu sais, c'est sûr que Lerman aime ça, jouer ça avec l'iconographie, mais je trouve que il tourne la silhouette d'Elvis comme le costume de Batman avec les cornes. Là.
Oui, absolument.
Tu vois comme sa silhouette de loin, puis c'est super iconique. C'est aussi le plus proche que Baz Luhrmann va faire un film de super-héros, je pense. Mm-hmm. C'est vraiment... Ben, justement, avec la performance de Tom Hanks, c'est très clairement un super-vilain. J'ai bien aimé ça. Comme tu dis, c'est en effet vers la fin, t'es comme plus sûr... C'est pas que c'est long, mais comme t'es plus sûr si tu t'approches de la fin ou non.
C'est aussi moins... Ah, c'est ça, t'as raison. C'est comme... Tu sais, mettons, il y a des films... de nos jours, les films ne pouvaient plus finir. Là. Mm-hmm. Ça avait peut-être été voir sur... Il y a 2 ans, sur Up Rock, c'est quelqu'un qui a fait un grand article avec beaucoup
c'est,
de monde.
C'est Mike Ryan, qui est un de mes writers de cinéma préférés.
Puis il a dit, genre, le monde ne parlait pas à Village Découvert de pourquoi les films ne veulent plus finir. Mais celui-là, t'es comme... Comme tu dis, la fin, on est comme... OK, ça finit. Ah, ça finit. C'est pas des moments que c'est pas comme mettons In the Heights qui devrait finir au carnaval là, de Barrio. Oh. C'est plus genre OK, mais là on sait tous où ça s'en va là. C'est comme vu que c'est un biopic, on sait tous parce que moi je connais la vie d'Elvis assez pour savoir ce qui s'en vient. Fait que pourquoi est-ce que le reste avance pas aussi vite que ce moment-là? Évidemment, c'est parce qu'il veut qu'on vive des émotions à travers tout ça, mais dans son rythme, ça lui ennuie.
Ouais, mais c'est ça. Sinon, ouais, je pense qu'on recommande toutes les deux de vive voix avec chaleur Elvis.
Pouce en l'air, là.
Pouce en l'air, c'est ça. Comme on dit, c'est un 2h40. Là, fait, il fait chaud un après-midi. Allez au cinéma, allez écouter Elvis, là, c'est vraiment bon.
À quel point qu'on est deux astides nerds que notre référence de hey, l'été au Québec, ça dure 2 semaines. Aller au cinéma à place.
Aller au cinéma. Ben regarde, il fait chaud. D'autres trucs qu'on a fait. Oui. C'est ce dimanche, c'est canicule. Ma copine et moi, on est allé voir Elvis au cinéma du parc. Puis on était à fraîcheur. Je me suis pris une slush, ma première slush depuis des années.
Crème.
Tellement il faisait chaud. Ensuite, on va passer au film de l'autre film de la semaine. Si vous écoutez ça, le jour que ça sort, il sort d'ici quelques jours. On était voir Thor Ragnarok. Pas Thor Ragnarok. Thor Love and Thunder.
Oui.
Thor Love and Thunder.
Parce que j'aurais regardé. OK, là. Bon.
Je vais présenter le film comme il faut. Thor, Love and Thunder est, à date, le seul et unique film d'un personnage solo de Marvel qui a son 4e film, qui est Thor, qui est joué par Chris Hemsworth. C'est réalisé par Taika Waititi, qui a coécrit le scénario avec Jennifer Caton Robinson, qui est aussi la writer de Unpregnant et Someone Great. C'est, comme j'ai dit, c'est la 4e aventure de Thor. Post Avengers Endgame, Thor est parti dans l'espace pour chiller avec les gardiens de la galaxie. Mais on découvre que Thor, il se sent pas complété dans la vie. Il se sent pas... Il y a pas vraiment un but. Il fait juste comme se mêler de des conflits avec les Guardians. Puis il trouve pas vraiment son but dans la vie. Il aime encore Jane Foster, qu'on a vu dans les deux premiers films, qui est joué par Natalie Portman. Et il est à la recherche de quelque chose. Et éventuellement, il décide de retourner sur Terre, tu sais, voir ce qui se passe. Il retourne sur New Asgard, où on retrouve Valkyrie, qui est jouée par Tessa Thompson, qui, elle, gère... Qui gère New Asgard, mais qui s'ennuie à mourir. Elle semble avoir perdu un peu son but dans la vie. Mais, heureusement ou malheureusement pour eux, il y a Christian Bale, qui est dans le rôle de Gore, de God Butcher, le boucher des dieux, qui est un homme qui a une épée, justement, le God Butcher, qui lui permet de pouvoir tuer les dieux. Et après qu'il considère que les dieux lui ont fait faux bond, lui ont fait échec, il décide de se promener dans la galaxie et de tuer les dieux partout afin d'atteindre une patente cosmique qui va lui permettre de faire des choses davantage sombres. Alors, Thor, il sait comme pas vraiment quoi faire. Fait que c'est aussi bien se battre contre lui. Mais à travers ça, Gore décide de kidnapper tous les enfants de New Asgard. Et là, Thor doit courir après. Valkyrie, en tant que reine d'Asgard, doit y aller. Mais aussi, à leur côté, ils découvrent que Jane Foster a maintenant pris et est reconnue comme étant assez digne pour porter Mjolnir. Fait qu'elle est elle-même de Thor, ou comme il l'appelle dans les comics, de Mighty Thor. Et elle est. Et là, Thor, il se voit comme confronté à l'amour de sa vie qu'il a perdu. Puis comment que, tu sais, le fait qu'il est immortel, ça l'a toujours rebuté, mais là, il est comme, là, si Jane peut être comme immortelle, tu sais, ça pourrait être le fun. Et tout ça est à peu près la prémisse du film.
En fait, c'est l'histoire du film.
C'est l'histoire du film.
L'histoire est finie. Genre, tu viens de compter tout le film, il reste plus rien à
apprendre. Ben, c'est rien qu'un trailer n'a pas dit, en fait.
Oui, c'est ça, absolument.
C'est rien qu'un trailer n'a pas dit. Et puis, oui. Le reste, il se passe plein de choses. Il y a plein de choses qui déboulent. Thor essaie d'aller chercher de l'aide ailleurs, mais va-t-il l'avoir?
Mm-hmm.
Et c'est pas mal ça. C'est... pour la plupart de l'efficacité des films de Marvel... Mais maintenant que je l'ai recapé un brin...
Oui. Yannick, attends un peu, en premier.
Oui.
Toi, t'es un comic book oui. Enthousiaste.
C'est exact.
Est-ce que Thor est dans tes top 15 personnages préférés des comic books?
Non. C'est un bon personnage, mm-hmm. mais pour moi, les fois que j'ai été intéressé à Thor, c'est soit le voir interagir avec d'autres personnages que j'aime mieux parce que le contraste est intéressant, ou c'est quand... des auteurs ou des artistes particuliers ont juste trouvé la twist pour le dessiner que je trouve excitante.
Ok, je comprends.
Fait mais autrement, je suis pas comme. C'est comme Superman, je vais toujours aller checker comme. Ah, qu'est-ce qui se passe avec Superman, même si j'aime pas les livres en ce moment, je veux rester au courant. Mm-hmm. Même chose avec, avec Spider-Man ou avec Flash. Mais Thor, il peut se passer 5-6 ans sans que je m'en soucie, là.
Puis. Parce que, mettons, au cinéma, ce qu'on fait avec Thor, c'est qu'il barouette. Là. Thor, c'est, il vit plus d'histoires que Dominique dans Radio Enfer. Là, qui a eu trois setups différents. T'sais, au début de Thor, ils ont suivi la mythologie, comme bien comic book. C'est-à-dire que c'est le fils de Odin qui est pas fiable et qui l'envoie chez les humains manger un peu d'humilité. Puis à partir de là, il est devenu plein d'affaires à un moment donné.
Ouais.
Fait que là, dans ce film-là, à un moment donné... À quel point c'était pas drôle quand il était en fat suit dans Infinity Wars, je pense?
Ouais.
Il y a ce bout-là aussi.
Quand il était gros. Hey, sérieux, là, je me rappelle, je pense que c'était un des writers de Endgame qui disait « Il est pas vraiment en fat suit, il est en regular dude suit. » Il y a plus de monde qui ressemble à ça que qui ressemble au physique de Chris Hemsworth sur la planète.
Mais c'est spécifique qu'il il avait pareil...
Mais c'est ça que je trouvais que, tu sais... Ouais. Moi, j'aimais pas ça particulièrement, ces jokes-là. C'est comme, est-ce que c'est drôle que Thor soit baquet?
Non, moi non plus. Ça faisait pas rire. Je comprends ce que vous voulez faire, mais t'as pas besoin de se rendre jusque-là pour faire ces propos-là.
Mm-hmm.
Fait que là, t'as la version 2 de ça. Plaster, le film commence que. Là, vous avez vu les annonces, fait qu'il ressemble plus à ça. Puis là, il y a une autre phase rapidement que c'est un Star-Lord adjacent comme look. Après, il y a d'autres looks à travers cette affaire-là. Fait que déjà. Pour moi, Thor, il est très malléable puis il veut plus rien dire.
Ouais.
Le personnage-là, il veut plus rien dire. Fait que je sais pas, quand le film, des fois, il parle qu'il est vide. Je sais même pas s'il parle à nous autres. Genre, ce personnage-là, il est vide. Il n'y a rien à faire avec. Le problème, c'est que c'est encore Waititi.
Taika Waititi.
Taika Waititi qui a réalisé ce film-là, comme Thor Ragnarok. Et il a les mêmes problèmes que Thor Ragnarok. Puis pour moi, ces problèmes-là méritent d'une façon existentielle. Là, de façon vraiment... là. Dans chacune de mes cellules de mon système, n'aime pas les gagounets à chaque 2 minutes. Même pas, à chaque 20 secondes. Ça, si vous avez aimé Thor Ragnarok, vous allez aimer ça.
Ouais.
Mais je suis heureux, puis j'aimerais ça aimer. Je suis passé vers toi au début, puis je vais dire, j'aimerais ça trouver ça drôle. J'aimerais tellement ça trouver ça drôle, man.
Ouais, parce que, comme, c'est ça. Toi, puis si vous étiez assis à côté de Pierre-Luc et moi dans la scène, là. On vous aurait pas dérangé parce qu'on aurait tous les deux stone face, aucun son. Parce que, regarde, moi, c'est la même affaire pour moi à Thor Ragnarok. Cependant, faut dire, comme justement, si vous avez aimé Thor Ragnarok, il y a des bonnes chances que vous allez aimer ça.
Oui.
Parce que C'est la même sauce. Et il faut dire aussi que Thor Ragnarok est un film qui est très apprécié et qui est très aimé.
Oui, oui.
Ce n'est pas mon cas et ce n'est pas le tien non, non plus.
Parce que, tu sais, mettons, moi, tout ce gagounet-là empêche d'être sincère. Mm. Tu sais, c'est pas... De ce qu'on a vu de Thor à date, il n'est pas drôle. C'est pas Deadpool, mettons. Tu sais, c'est pas un personnage comme ça. Puis les skills d'impro de Chris Hemsworth ne sont pas celles du monde de The Office. Puis The Office... Il faisait les takes tellement souvent pour avoir la meilleure que...
Parce qu'on parle de The Office parce que, justement, il y a beaucoup de jokes, justement, des gaguinets, t'sais, toutes ces affaires-là. C'est très sous-joke de The Office, sous-joke de 30 Rock.
Oui.
C'est des balbutiements de blagues.
C'est des débuts de blagues.
Puis moi, ça, en tout cas, nous autres, ça nous fait vraiment comme pas rire. Puis comme tu disais, moi aussi, ça, je trouve que ça coupe toute la sincérité du film. Comme un moment donné, dans le film, on apprend qu'il y a un allié de Thor qui est gravement blessé, qui s'est fait attaquer justement par Gore, de God Butcher, le boucher des dieux. Cette personne-là contacte Thor, bien comme « Hey, j'ai besoin d'aide! » Le Thor et Chris, il faut qu'on y aille. » Mais avant qu'il aille aider son ami qui a besoin d'aide d'urgence, t'as tout de même 2 minutes et demie. T'as 3 minutes, mettons, avec Star-Lord, essentiellement, comme « Hey, Star-Lord, je peux plus être avec les Guardians, faut que je quitte les Guardians, tout ça, puis il faut que j'aille aider mes amis. » Enrobé de multiples petits gags qui sont...
faibles.
Qui sont vraiment faibles.
Si c'est genre, mettons, tu sais, en général, tu veux, en humour, faire des home runs, mm-hmm. puis des fois, c'est bon de faire des coups sûrs pour après avoir home run plus tard, puis après... ramener toute sa maison, puis ça, c'est des coups sacrifices, là. C'est des coups sacrifices, sont mou que le tabarnak, puis c'est pas drôle, genre, il y a comme... L'affaire qui est plate avec ce film-là, c'est que, mettons, il envoie 10 jokes, pour 10 jokes, t'en as 8 qui sont mauvaises, une de correcte, puis une de bonne. Mm-hmm. Fait que le coup de circuit, ce qui est plate quand il arrive, il marche pas pour moi, parce que je suis comme... Bon, enfin! Et j'ai un soulagement d'avoir une bonne joke, au lieu d'avoir, asti, juste des bonnes jokes tout le temps.
Ouais, c'est ça, puis justement, là, quand on a la scène d'après, puis il va sauver son ami, je suis comme... son allié, je suis comme ah, qui est à l'article de la mort, je suis comme ah, c'est cool que t'ailles la sauver, mais t'aurais peut-être pu comme faire moins de jokey joke avec Star-Lord, peut-être que tu serais arrivé plus vite.
C'est un bon exemple parce que tu sais, mettons le personnage qui converse, ça va pas bien, puis il y a des émotions derrière que cette personne-là est sur le bord de mourir, elle pense qu'elle va mourir. Mm-hmm. Fac, on aurait bien plus d'émotions si on avait comme fait quoi, j'arrive. Il arrive, puis t'es-tu correct, whatever. Mais là, c'est comme, ah oui, je m'en viens. Niaisage, niaisage, niaisage. Puis tout ce genre de niaisage-là, surtout pendant les deux premiers actes, ça nuit tellement au film. Et en plus, toutes ces 10 secondes, puis ces 20 secondes-là, ramassées ensemble, on aurait pu faire des scènes de 2-3 minutes qui auraient pu permettre de rendre Gore intéressant davantage, l'apprendre plus sur lui, le voir combattre avec... Sa malédiction, si on veut. Lui, mm-hmm. il veut pas, puis des fois, il parle tout seul. Il aurait pu avoir des scènes vraiment intéressantes que ce film refuse de faire pour faire des bruits de pète.
Ouais, ouais, c'est ça, tu sais, comme... Chris Hemsworth est un acteur qui est vraiment talentueux. Puis, il est drôle, mais il est pas impro-drôle.
Non, puis Natalie Portman n'est pas impro-drôle non plus, là.
Non, non, c'est juste... C'est pas dans leur palette à eux autres.
Puis, super bonne, là. C'est deux acteurs, des acteurs-actrices super bonnes.
Puis ça, tu le vois juste parce qu'il ramène le gag de faire une pièce de théâtre de ce qui s'est passé dans le film précédent, ce qui est soit Taika Waititi qui est soit il aime ça respirer ses propres pets, ou il est plus comme « Est-ce que c'est niaiseux pareil, toutes ces affaires-là? Oui. » Moi, j'ai plus l'impression que c'est le deuxième. Mais bref, dans ces acteurs-là, c'est tous des caméos d'acteurs tout de même vraiment connus qui font un petit rôle dans ce film-là.
On vous le nommera pas, mais...
Ben justement, il y a une actrice comique vraiment douée qui fait juste un petit bit. Puis tu vois immédiatement qu'elle est plus confortable et drôle d'en
ça
faire
ces
affaires-là.
Ça tente d'être là pour faire cette affaire-là.
Puis ça marche juste vraiment
aussi, mieux. Parce que son personnage, c'est pas approprié pour ces personnages-là de puncher de même, je trouve, aussi. Mm-hmm. Tu sais, comme son Jane Foster, c'est pas... Pourquoi est-ce que est drôle une fois sur 8, mettons, drôle, je veux dire, puis le reste est tonne sérieuse. C'est comme ses répliques, elle serait plus witty, puis ça aurait du sens qu'elle soit drôle, genre, mais elle n'est pas de ce genre-là. Et pas cette énergie-là en général, fait que ça détonne quand il essaye de puncher.
Mais elle est tout de même assez épargnée à ce niveau-là, ce qui est pour Natalie Portman et toute l'affaire de ce qu'elle fait dans ce film-là. Puis son storyline, c'est mon affaire préférée du film parce que c'est justement c'est elle qui est épargnée d'avoir un bruit de klaxon à la fin de chacune de ses scènes. T'sais. Puis ça, comme je veux dire, Chris Hemsworth, il est vraiment bon. T'sais, en affaire, là. Justement, tu sais, tu parles que Thor est malléable. Kevin Feige, le producteur de Marvel, il a dit comme au début, fallait que Chris Hemsworth ressemble à Thor, mais maintenant qu'il est Thor, il peut faire comme un peu n'importe quoi avec son look, puis on accepte que c'est Thor.
Oui, mais tu sais, il a eu les cheveux courts à un moment donné aussi, il a eu plein d'affaires la même.
Ouais,
il a eu un œil
crevé. Il a 1000 costumes.
Ouais.
Regarde, faut vendre des bebelles, c'est correct. Mais l'affaire, c'est que. Une affaire qui est vraiment bon, c'est qu'il est bon pour incarner justement un genre de présence héroïque, puis aussi d'être vraiment sincère, comme il y a beaucoup de scènes avec des enfants dans ce film-là, puis quand il est comme réconfortant envers des enfants, là, moi, j'étais comme touché, puis j'aimais ça, puis comme, ah, c'est ça, tu sais, comme, quelque part, les super-héros, ça sert à ça, c'est pour réconforter les enfants, tu sais.
Ouais.
Puis, quand il y a des scènes de ça, sans pouet-pouet, j'étais comme, bon, hostie, ça peut-tu être ça? Parce que je trouve que les jokes constantes dans ce film-là, on dirait que c'est essentiellement juste du... C'est niaiseux, ça, pareil. Hein? C'est pas vraiment important.
Oui, c'est vraiment qu'ils ne sont pas assumés, ces blagues-là. Parce que c'est vu qu'ils restent souvent des prémices ou c'est des jokes de quiproquo vraiment, vraiment faibles, ça mord pas, ces blagues-là. Il manque de force derrière. Parce qu'ils sont pas assumés.
Ben c'est ça. Fait que... Tu sais, je trouve que c'est ça, puis Ragnarok, c'est des films qui me disent tout le long, mais c'est niaiseux, ça, pas vraiment bon de s'en occuper, ben. Puis si vous allez ressentir quelque chose, ben, il va y avoir un bruit de pète à la fin, anyways. Fait que c'est pour que ça, à chaque fois que quand j'écoute ce film-là, à chaque fois qu'il y a une scène qui devient sincère, je veux rentrer dedans, mais en même temps, je suis comme pas capable de rentrer dedans parce que je me demande si il va y avoir, tu sais.
Quelqu'un qui va dire une affaire après.
Qui pile dans une crotte, puis il est comme « motadine, shit happens ».
Oui, oui, absolument. Par contre, tu vois, genre, le dernier tiers, il n'y a plus de ça. Là, ça m'a réveillé. Tantôt, on l'a dit, c'est 9h du matin. Il y a des bouts que j'ai, je dois avouer, j'ai cogné des clous pendant certains moments. Parce que, justement, je ne suis plus engagé. Toute cette brume de gagounet m'a tellement... enlever la question.
Qui dit constamment que « Ah, pas vraiment t'en occuper
tant que ça. » Ouais, c'est comme si en plus, ce film-là, il est en train de se désavouer constamment. Puis en plus de ça, mais tu vois, par contre, au dernier tiers, là, c'est sérieux. Puis genre, « Hey, je suis un humoriste, en vie, j'aime ça l'humour. » C'est pas ça le point. Mais c'est vraiment comme que c'est pas réussi à ce niveau-là. Mais quand ça arrête, ça fait du bien. Mais ça devient bon, ça devient intéressant. Puis il touche davantage les thèmes du film aussi, qu'on oublie à travers tout ce brouillard de jokes de pète là. Puis c'est plate parce qu'il y a des bonnes idées à travers tout ça. Puis je me souviens vers la fin, je pense des choses narrativement importantes que je suis comme, si j'aurais aimé ça qu'il puisse peser sur ce piton-là davantage avant, puis au lieu de faire des gagounets puis des jokes de se revirer de bord puis foncer se cogner à la tête sur quelque chose là.
Ouais, tu sais, comme juste éventuellement, ben, tu sais, comme il y a un gros un aspect romantique au film qui est quasiment tout le temps humoristique, mais quand ça devient vraiment sincère, quand ça parle de Thor puis de Jane puis que leur amour est partiellement impossible parce que Thor est immortel comparé à elle qui est humaine, tu sais, là ça touche une corde qui est vraiment bonne. Je suis comme, ah, tu sais, juste un peu plus de ça avant, là, ça serait bien. J'ai l'impression que...
Ça serait plus puissant, enfin. Le fait qu'on en sorte de ce film-là, le colonel Parker a raison. On veut donner notre argent puis sourire à la fin.
Ouais.
Puis ça fait pas sourire. Ce film n'amplifie pas la lumière, Yannick.
Non, ça n'amplifie pas. En fait, c'est une affaire que... C'est intéressant que tu mentionnes le colonel Parker parce que... Je pense pas que Taika Waititi... aime vraiment l'univers Marvel ou la machine Marvel, c'est correct. Mais il a vraiment fait ses films de « c'est un peu niaiseux tout ça ». Puis il y a un moment dans le film d'Elvis où Colonel Parker, il parle du merchandising, il dit « c'est facile de vendre des macarons, j'aime Elvis.
Oui.
Mais quand tu vends des macarons, j'haïs Elvis, tu fais de l'argent des deux bords.
Ouais.
j'ai l'impression que Taika Waititi, il fait ça avec les films de Thor. Je pense que tu sais, il est super content d'avoir accès aux ressources d'un gros studio puis de travailler avec tous ces acteurs-là. Mais les super-héros puis l'univers Marvel, ils s'en calissent dans le fond. Fait que c'est pour ça qu'il peut être vraiment irrévérencieux envers tout ça. Ce qui est, tu sais, comme super correct comme démarche artistique, c'est juste que moi, je suis là comme... Pourquoi je me préoccuperais de ça si tu me dis que c'est tout le temps niaiseux?
T'sais... D'accord. Puis, mettons, à travers tout ça aussi, c'est que ça... C'est ça qu'à la fin, comme, moi, j'ai vécu une genre de frustration de... Est-ce qu'il y avait des bonnes bases, finalement? Il y avait tellement de fondations, mais le deuxième étage, c'est juste des fenêtres parce que lui aime ça, la lumière, puis ça va être ça. Puis je suis comme, non, moi, j'adore la lumière. Je suis un lumièreuriste dans
la
vie, là.
Ouais, tu veux amplifier la lumière.
C'est ça, absolument. Mais ça tient pas. Puis là, t'arrives au troisième étage. Puis t'es comme, ah, si, ça aurait été vraiment bon de pouvoir soutenir ces thématiques-là. Tu sais, même Gore, je trouve que, en général, un des problèmes des films de Marvel, c'est les méchants, qui veulent rien dire, puis qui sont juste bonhomme pareil méchants, puis c'est juste pas about ça. Mais je trouve que ceux-là, il y avait vraiment du potentiel qu'ils ont inexploité, puis j'aurais vraiment aimé. Genre, ça aurait tellement rendu fort.
Christian Bale est très bon, d'ailleurs.
Christian Bale est super bon.
Il est très bon,
c'est dans un gros highlight pour moi de ce film-là.
Puis, tu sais, que lui, sérieux, lui, il a dû vraiment faire un saut parce que. Il aime tellement se transformer pour ses rôles.
Oui.
Là, il a... Quoi? Tu peux juste être maquillé?
Oui, c'est ça, absolument.
Il y a des professionnels qui peuvent juste te coller du latex dans la face, te peinturer, puis t'as pas besoin de te transformer. Il devait capoter.
Puis tu sais, c'est fou parce que Gore, je trouve qu'il y a une belle mélancolie qui vient avec ce personnage-là. Mm-hmm. Puis genre, je trouve que les méchants tristes, c'est rare qu'on les voit comme dans un film de Marvel.
Ouais.
Fait que j'aurais vraiment aimé voir ce méchant mélancolique-là de comme, hey gang, faut que je fasse ça parce que j'ai trop de peine.
Ouais.
J'ai trop de peine, faut que je fasse ça. Puis comme, tu sais, ça a été vraiment super pertinent, intéressant. Il y avait beaucoup de jus là-dedans. Puis il décide d'aller dans tout ce qu'il pouvait faire, il décide de faire ses bruits de pète au lieu de faire ce jus-là narratif qui m'aurait tellement ému à la fin.
C'est ça, comme on revient souvent à ça, que c'est vraiment frustrant parce qu'il y a toutes ces bouts-là. Puis je demande pas à tout le film d'être un psychodrame parce que, justement, ça fait partie de la formule de Marvel d'avoir cet humour-là dedans.
Absolument.
Puis,
Mais tu sais, mettons, je trouve qu'en script édition... Tu peux juste aussi pas faire ces blagues-là.
Ouais.
Garde tes home runs, puis ce film-là, il y a des moments drôles. Il y a des moments sincèrement drôles qui m'ont pas fait rire parce qu'il était inondé par des moments pas drôles.
Mais tu sais, Doctor Strange 2,
oui.
Pas tant de jokes que ça dedans.
Non.
Il est plus chill. Fait que prenez de la graine de Doctor Strange. Là,
en même temps, c'est pas même... c'est public cible, familial, mais lui, je pense que Thor est un peu plus jeune que Doctor Strange. Je pense pas que... Un enfant de 10 ans comprend vraiment Doctor Strange à 100%. Là.
Non, c'est clair. Mais tu sais, c'est ça, c'était... sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Mais c'est ça, je pense que, tu sais, il y a tout de même une efficacité scénaristique qui fonctionne.
Oui.
Tu sais, les affaires sont en bonne place. Les personnages sont tout de même vraiment solides. Il y a juste comme le crime model. Je veux juste dire que j'adore What We Do in the Shadows, le film et la série. J'adore Hunt for the Wilder People.
Jojo Rabbit, c'est quoi ton take là-dessus?
J'ai pas encore vu Jojo Rabbit. Parce que justement, ça avait l'air d'avoir beaucoup d'humour que je n'allais pas aimer.
Oui.
Mais pour la plupart, j'aime Taika Waititi. Là. J'ai pas encore vu son Our Flag Means Death, qui est apparemment vraiment fucking bon aussi. Fait que j'aime ce qu'il fait. Là. Ces épisodes de Mandalorian sont très bons. Fait que je suis pas contre sa patte ou sa palette, mais c'est juste ce qu'il fait dans les films de Marvel. Je suis comme...
C'est fou parce que, en plus, c'est facile de... Tu sais, quand que, un artiste fait quelque chose, il y a une forme de prétention derrière, je trouve. Donc là, j'annonce une mini-tournée. J'ai une prétention de « Hey, je vais venir me voir, je vais vous faire rire. » Puis... À travers ça, ben moi, je m'efforce pour enlever mes gagounets de mon show et avoir des plus de home run possible. Mais lorsque, lui, pour deux fois de suite, il nous garde ces autres-là à l'écran, c'est qu'il est convaincu qu'il est le fucking maître du rire. Puis le fait qu'ils n'enlèvent pas, ça, c'est un problème d'ego. Puis ça me tape ses nerfs plus que quelqu'un qui a juste 5 hosties de bonnes jokes dans le film. Puis après, ça en parle, ça fait des running gags dans la société. Là.
Ouais, mais il faut dire... Thor Ragnarok a eu énormément de succès.
Oui,
puis
ça,
le monde aime ça. Fait que,
oui, c'est nous autres qui est le problème.
C'est nous autres le problème. Oui. Fait que, c'est sûr qu'ils n'enlèvera pas. C'est non. Juste que nous autres, on était dans le cinéma tantôt, on avait les bras croisés. Là,
c'est ça.
Mais c'est ça. Sinon, aussi dire, Natalie Portman, super bonne. Très content de la voir avec des très gros bras. Très bon hustle de fitness. Elle est super cool en Mighty Thor. Comme je disais, son personnage est épargné du poète-poète, alors c'est celle qui marche le mieux.
Est-ce qu'il ressemble un peu au comic book, ce personnage-là? Oui,
oui, oui. Tout ça, c'est très fidèle à ce qui arrive avec le personnage de comic. J'ai pas tout lu sa run, j'en ai lu une couple, mais c'est ça qui se passe. C'est très cohérent. Ce qui se passe avec elle dans le film et ce qui se passe avec elle dans les comics. La run de Jason Aaron. Puis Valkyrie Tessa Thompson aussi est bonne. Des fois, je dirais que Tessa Thompson est comme. Elle est très Taika Waititi dans le sens qu'on dirait qu'elle n'a pas le goût d'être là. Puis comme ce que.
Mais je pense qu'elle ne sait pas quoi faire. Parce que souvent, elle est là parce qu'elle est là. Mais avec là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font du comic relief au lieu de donner des intentions de pourquoi est-ce qu'elle est à guerre pour cette affaire-là. L'avantage.
Il y a le retour de Korg, qui est bien sûr le doux dans Roche, qui est bien sûr la voix de Taika Waititi, puis qui fait le plus de toutes ces jokes-là insupportables.
Il fait deux fois la même joke dans le film. La joke de Jodie Foster, là.
Ouais.
Font deux fois. Puis je me souviens être comme, on voit plus quand je parle de route d'ego, là. Comme, pourquoi tu fais deux fois la même joke dans le même film?
Je me suis trompé du nom deux fois. Je suis comme, bah,
okay. Le même nom, c'est pas que.
Comme... Non, elle dit Jane Fonda, puis elle dit Jodie Foster. Mais
c'est la même joke.
La blague n'est pas meilleure une deuxième fois. Là.
Non, c'est ça. Je fais chier. Ah, pourquoi j'ai un callback d'une joke qui n'a pas marché dans le tout?
Ouais. Fait que bref.
Mardi. Film de mardi. Genre, t'as un mardi de lousse. C'est pas au cinéma.
Tu regardes, moi, mettons, sur le Letterboxd, je donne. À mon plus négatif, je pense, je donne 2 étoiles et demie. Parce que, tu sais, il y a plein d'affaires qui marchent pareil. Puis c'est la formule que le monde va aimer. 2 étoiles et demie. 3 étoiles, mais il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de cœur dans mon review.
Ouais.
Tu sais, comme je voudrais vraiment aimer ça, mais c'est.
Moi, je balance entre un 6 ou un 7 parce que c'est fonctionnel. Tu sais, genre, on charle depuis tantôt, mais ça fonctionne. T'sais.
Ouais, ouais.
Fait qu'il n'y a pas de moment où est-ce que je te comme. Non, ça c'est fonctionnel, tu sais. Cependant, là, je suis comme, OK, est-ce que ce film-là fait sa job qu'il devrait faire? Dans un sens, tous les défauts et les travers que Thor Ragnarok a, il les a. Mais c'est pour ça que les gens aiment ça. Fait que c'est pour ça que moi j'ai tendance à aller vers le 7 sur ma chronique de Hardest Jeux vidéo. Juste parce que je suis comme. Il fait ce qu'il pense qui est bon pour lui.
Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ça fait ce qui est écrit sur la canne. Fait que
c'est ça. C'est moi qui mange du spam. Puis comme c'est pas bon du spam, mais le monde aime ça le spam. Là.
Ouais, ouais. Quand ça existe depuis tant de temps pour de vrai. Mais regarde, pour en revenir au MCU at large, à date, en 2022. La meilleure affaire de Marvel et Miss Marvel sur Disney+. D'ailleurs, c'était un de mes plus gros frissons du film et de voir Miss Marvel dans son costume entier dans le logo de Marvel Studios. J'étais comme, Kamala est là!
Mais
je suis content!
La musique est tellement quétaine, le nouveau thème de Marvel, je trouve. Là.
Ben là, ils l'ont mis en guitare parce que c'est le film. Là,
mais c'est vraiment, vraiment quétaine de la mauvaise manière.
Ouais,
pas comme
ouais.
Quétaine. Yeah! Quétaine, gros papa. Papa Marvel est tombé dans la sauce. Là.
Ben, je pense que l'esthétique de rock des années 80, rad, ça, c'était très frais il y a 10 ans, voire même 12 ans, peut-être même un petit peu plus.
Ouais.
Puis là, que cette esthétique là de peinture airbrush sur une vanne, c'est pas inapproprié pour Thor. Mais pour que je trouve ça cool et nouveau, là, c'est comme un petit peu trop tard pour
ben,
ça.
Mais tu sais, mettons, quand on voit son suit là, de Star-Lord Thor. Là.
En fait, c'est son suit de Thunderstrike, qui est une des versions, un des knock-off de Thor d'années 90, avait un costume comme ça. Pas exactement ces couleurs-là, mais essentiellement.
Ça fitait parce que comme l'ambiance marche bien.
Puis il était avec les Guardians.
C'est ça,
ouais,
ça fitait rendu là, je trouve. C'est plus le logo de la tune de Marvel, ça a niaisé, mais ça m'a fait. C'est vraiment laid. Genre, c'est pas comme la bonne manière avec le drum, je sais pas trop, il faire comme la all-in. Va plus. Quand on parlait de s'assumer, là, allez-y all-in, puis j'entends du petite sister par-dessus, là, une affaire de même, là, comme allez-y, là.
Mais bref, en tout cas, félicitations à Kamala Khan d'être dans la mortaise de Marvel Studios. Tu mérites ta place. Tu es la meilleure affaire de Marvel en 2022. Comme, tu sais, tu t'es battu contre Benedict Cumberbatch et Oscar Isaac. Et Chris Hemsworth, puis tu gagnes à date.
Oui, absolument.
Félicitations, Iman Vellani. Tu es la reine de Marvel maintenant. Écoutez, si vous voulez écouter quelque chose de bon de Marvel, écoutez Miss Marvel sur Disney+. Tu sais, une affaire où que les jokes sont bonnes et qui ont de l'allure et qui font aimer les personnages plus, là, c'est incroyable.
Wow.
Il y a ça. Fait que c'est mon plaidoyer pour Miss Marvel.
Tu vois, on était ici la dernière fois ensemble, on discutait d'Uncharted,
ouais.
Que l'humour ne marchait pas au cinéma. Puis t'as raison, qu'il y a comme vraiment de quoi à ce moment-là qui une fois de plus, en deux, présence en deux, on a une discussion sur l'humour au cinéma. Puis je veux savoir, genre peut-être un côté plus pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe ces temps-ci. Là.
Ben, c'est, en fait, c'est ça. L'humour de blockbuster, c'est vraiment particulier parce que je pense que, de façon inhérente, un film d'action qui a un petit peu plus d'humour, ça va tout le temps détonner et surprendre à cause de la forme.
Oui. Fait
que c'est pour ça que les films de Marvel, ça fonctionne vraiment bien. Tu sais, c'est comme...
Mais je suis convaincu que, mettons, tu me prends moi, toi, puis genre trois autres auteurs que j'aime, là. Genre, même du monde que je connais, là. Genre, je suis pas. Puis c'est pas. C'est prétentieux, là, mais. Genre, je suis super bon, puis genre, je suis pas tout ça là-dedans. Mais ce film-là prend une coche dans ton humour, avec la bonne réplique à la bonne place.
Tu sais, c'est vraiment drôle parce que. Mettons dans les films de Fast and the Furious.
Oui.
Qui sont des films. Tu sais, comme je les compare parce que c'est des films avec beaucoup de continuité, beaucoup de personnages qui reviennent, qui se développent, tout ça, puis que t'aimes.
Et aussi irréaliste aussi.
Et aussi irréaliste. Il y a des jokes dans ces films-là que je ne trouve pas drôles. Cependant, je crois que ces personnages-là diraient ça.
Ah ouais.
Puis le niveau d'humour, même s'il n'est pas drôle, je suis comme... Roman, le personnage de Ludacris, il n'est pas si drôle que ça. Fait que c'est pour ça que lui... c'est pour ça que Ludacris puis Tyrese... sont pas drôles, mais sont les comic relief du film, mais c'est l'humour de ces personnages-là à ce plafond-là. Mm-hmm. Ils font juste se dire constamment qu'ils sont laids, puis qu'ils puent, puis des affaires comme ça. N'importe quel gaguinet d'un film de Marvel est probablement plus drôle que leur joke, mais leur joke fait du sens à eux comme personnages, fait que c'est pas choquant.
Ouais.
C'est comme, OK, ces dudes-là, ils diraient ça.
Mm-hmm.
Puis aussi, ils capotent beaucoup. Hey, qu'est-ce qui se passe, tabarnak? Fait que, non, il y a un puzzle constant de c'est quoi l'humour dans les gros blockbusters, puis comment que j'ai l'impression que des writers de grosses structures de ces films-là, ils ont écouté The Office 3-4 fois, eux autres aussi, puis sont comme « Ah, ben c'est facile, tu prends ce genre de joke-là, tu cueilles ces blagues-là, puis tu fais juste les mettre dedans, puis ça va marcher, puis at large, ça marche énormément. »
Oui, c'est ça. Fait que c'est ce qu'on avait à dire sur Love and Thunder. Je pense que tu peux le. Allez-y à mardi, ça sert à ça. Ça sert à ça les mardis pour moi. Parce que, mettons, Elvis, c'est un. Allez-y plein prix. Si ça va être content. Contente. J'avais envie de dire aussi là-dessus que si tu y vas pas, tu manques pas tant d'affaires, je pense, du MCU.
Top. Non, c'est
vraiment c'est... comme quasiment un side quest, là.
Ouais, ben, tu sais, ça, c'est. Moi, je trouve que c'est vraiment pas grave s'il y a pas des gros moves narratifs de MCU.
Mais je vais juste dire aux gens que si tu skips. Tu manques pas tant d'affaires.
Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a un credit scene qui présente un personnage qui va être comme level C pour tout le monde, mais moi que j'aime beaucoup dans les comics, puis qui est joué par un acteur intéressant. Alors ça, je trouve ça cool. Mais sinon, ouais, il y a pas de grosse mécanique narrative que vous allez manquer sinon. Puis c'est ça, fait alors qu'on termine ça, Pierre-Luc, les gens qui veulent te suivre, ils te suivent où?
Suivez-moi sur Facebook, Pierre-Luc Racine, Instagram, à commercial Pierre-Luc. J'ai besoin de votre soutien parce que je suis pas à TV, je suis pas à radio. Et je suis aussi, mon compte publicitaire est bloqué parce que j'ai une soirée tous les jeudis qui va commencer en septembre au Café Ouka Lounge.
Mm-hmm.
Et comme j'ai fait une pub avec le mot Ouka dedans, Facebook m'a banni, fait que j'ai besoin de votre support. Je me lance une mini-tournée de 4 dates qui s'en viennent. Québec, Montréal, Gatineau, Sherbrooke. Je veux vous voir.
Monsieur Provincial.
Monsieur Provincial, yes, 514, 418, d'aller. Venez voir ça. C'est un bon show. Invitez votre monde parce que j'ai peur qu'on soit 3. Puis j'aimerais qu'on soit plus que 3, 5 au moins.
Ouais.
Non, pour de vrai, à Montréal, prenez vos billets rapidement. C'est déjà vendu à 25%. Il reste seulement le 3 quarts, seulement déjà. Il reste seulement. Fait que c'est vraiment le fun. Venez voir ça, ça va être vraiment, vraiment le fun.
Très cool. Pour ma part, vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter, sur Instagram. À chaque vendredi, il y a un nouvel épisode de Trois Bières. On termine bientôt. Soyez des nôtres pour la fin. Aussi, j'ai travaillé sur un jeu de Tortue Ninja qui est sorti il y a quelques semaines.
Super bon.
Merci beaucoup. Qui est un succès, ma foi, critique et commercial, on dirait aussi. Mm-hmm. Alors, achetez-les si ça vous dit. On en est très fiers. Mais en attendant, j'aimerais vous inviter, peu importe ce qui arrive, à aller voir des vues. Et voyons.